écoutez RFI, il est 2h du matin à Paris, 3h à Beyrouth, 20h à Port-au-Prince.
Diane Berger.
À la une de ce journal, impossible cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah au Liban. Paris et Washington se montrent optimistes, ils pourraient être signés dans les prochains jours. De leur côté, les autorités libanaises ne commentent pas pour l'instant. Nous ferons le point sur ce que l'on sait avec notre correspondant à Beyrouth. La justice américaine abandonne ses poursuites contre Donald Trump, le président élu des États-Unis, dont le retour au pouvoir risque bien de bouleverser l'avenir de la défense européenne. Au sommaire également, le difficile travail de mémoire autour du massacre de Tiaroy au Sénégal. 80 ans après, Dakar suspecte Paris de cacher certaines archives. Et puis le plastique n'a plus la cote. Place au vrac, reportage dans une épicerie parisienne sans aucun emballage jetable. La perspective d'une trêve semble à portée de main après plus de 2 mois de guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah sur le sol libanais. Les États-Unis l'assurent. Un accord pour un cessez-le-feu est tout proche. Les discussions ont bien avancé selon la France, également très impliquée dans la médiation. Et selon l'agence France-Presse, le cabinet de sécurité israélien doit se réunir ce mardi soir pour en débattre. Côté libanais, Paul Ralifé, pour l'instant, les milieux officiels gardent le silence.
Les deux Les principaux concernés, le Premier ministre Najib Mihati et le président du Parlement Nabih Berri, de même que leurs proches, se murent dans un silence complet. Les milieux de Nabih Berri, qui a négocié avec les Américains au nom du Hezbollah, ne veulent pas entrer dans ce qu'ils appellent des supputations sur des dates. Silence tout aussi total sur le contenu de la proposition. Des sources diverses affirment que l'accord reposera sur la résolution 1701 des Nations Unies qui a mis fin à la guerre de 2006. Seul le mécanisme de surveillance a été renforcé pour s'assurer qu'elle sera bien mise en œuvre. Le comité de supervision existait déjà et comprenait le Liban, Israël et les Nations Unies. Il a été élargi pour englober les États-Unis qui le dirigera et la France. Israël a tenté d'opposer son veto à l'entrée de la France, mais le Liban a insisté et Washington a vu cette proposition d'un bon œil, car la France est le seul pays européen à parler encore au Hezbollah. Ce comité supervisera le retrait de l'armée israélienne du Liban et des combattants du Hezbollah du sud du fleuve Litani dans un délai de 60 jours. Cette tâche sera confiée sur le terrain à l'armée libanaise et au casque bleu des Nations Unies. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
D'ici à un éventuel cessez-le-feu, la guerre continue. Les bombardements israéliens de ce lundi ont fait au moins 31 morts selon le ministère de la Santé libanais. C'était une promesse de campagne de Donald Trump. Le président élu des États-Unis vient d'annoncer qu'il va augmenter massivement les taxes douanières, plus 10% pour les produits importés de Chine, 25% pour ceux originaires du Mexique et du Canada. Le milliardaire américain qui prépare son retour à la Maison-Blanche avec une épée de Damoclès en moins au-dessus de sa tête, la justice renonce officiellement aux poursuites engagées contre lui pour ingérence électorale après ses manœuvres pour rester au pouvoir en 2020. Le retour du milliardaire à Washington va forcer l'Europe à revoir sa stratégie sur un plan géopolitique. Il faudra moins dépendre des États-Unis pour l'armement. C'est dans ce contexte que le Financial Times publie cette révélation. Jusque-là, la France s'opposait à ce que Bruxelles verse des incitations financières aux entreprises non européennes de la défense. Mais le pays s'apprête à changer sa doctrine, Franck Alexandre.
Jusqu'à présent, Paris était vent debout à l'idée d'autoriser les entreprises américaines, britanniques ou même turques bénéficier du plan européen d'investissement pour la défense. L'initiative vise à stimuler les investissements dans l'industrie militaire et à encourager les Européens à acheter ensemble des armes à l'image de ce qui avait été fait avec les vaccins lors de la pandémie de Covid. Un sujet clé pour le président Macron qui, depuis plusieurs années, appelle de ses voeux la construction d'une Europe de la défense. Seulement, l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche est venue rebattre les cartes. Difficile, disent de nombreuses capitales, de faire pression sur l'administration américaine pour qu'elle ne réduise pas son soutien militaire à l'Europe et, dans le même élan, exclure les sociétés US du fonds européen. Les États-Unis ne sont pas un cas isolé. La Suède, qui a des liens étroits avec l'industrie de défense britannique, s'oppose à toute restriction. Les négociations sont encore loin d'être terminées. La proposition du plan européen européen d'investissement pour la défense devrait être présenté au Parlement européen au début de l'année prochaine.
Franck Alexandre, en France, l'heure des réquisitions au procès des viols de Mazan. La peine maximale a été demandée pour Dominique Pellicot, 20 ans de réclusion pour avoir violé et fait violer son épouse par des dizaines d'hommes recrutés en ligne. Cela alors que la victime était droguée à son insu. Pour 20 autres accusés, des peines qui vont jusqu'à 17 ans de prison et les réquisitions doivent continuer demain mardi pour les 30 autres hommes jugés lors de ce procès hors norme qui a secoué la société française. Dimanche prochain, le Sénégal va commémorer le massacre de Tiaroy. Plusieurs dizaines de tirailleurs africains avaient été abattus par des gendarmes français et les troupes coloniales en 1944. À l'approche de ce douloureux anniversaire, une délégation d'historiens et d'archivistes sénégalais sillonne actuellement les fonds d'archives français avec des difficultés. La France assure avoir tout remis au Sénégal, mais Dakar suspecte l'existence de documents gardés secrets pour empêcher que toute la lumière soit faite sur cet épisode sombre de l'histoire. Comment expliquer que 80 ans après, cette question des archives reste aussi problématique? Écoutez ce qu'en dit l'historien Mamadou Diouf, professeur à l'Université de Columbia à New York.
La question des archives, elle est centrale parce que dès le moment où le massacre a été exécuté, il y a eu une volonté délibérée de ne pas présenter ce qui s'est passé de la manière la plus objective possible. Il est évident que la volonté de dissimulation française a fait qu'il était difficile d'avoir accès à ces archives. Et les historiens se sont bagarrés, continuent de se bagarrer pour avoir accès à toutes ces archives. Mais ça, c'est pas nouveau. Si vous connaissez toute l'histoire du travail sur Vichy, et le travail qui a été fait par un historien américain, Robert Paxton. Mais il l'a fait alors que la France ne voulait pas qu'on étudie Vichy. Quand la France est dans l'euphorie de la libération, que l'idée des compagnons de la libération qui vont restaurer la grandeur de la France, c'est à ce moment-là qu'on massacre des gens qui ont participé à la guerre. Et donc les Français ne veulent pas qu'on parle de ça.
L'historien Mamadou Diouf, il était l'invité de Florence Maurice dans Afrique Midi. Et le massacre de Tiaroy, RFI y consacre d'ailleurs un podcast, Tiaroy, les tirailleurs sacrifiés. Un podcast écrit par Charlie Dupio, disponible dès à présent sur notre site et notre application. La COP29 sur le climat est à peine terminée que commence un autre cycle de négociations pour la planète, celle concernant la pollution plastique en Corée du Sud. Les pays les plus ambitieux veulent réduire la production de plastique mondiale, qui est une menace pour les océans comme pour notre santé. Il va falloir moins en produire, mieux les recycler, changer aussi nos habitudes. Raphaël Morane s'est rendu pour RFI dans une épicerie qui vend ses produits en vrac, sans aucun emballage à Paris.
Sans attendre l'année 2030, lorsqu'il sera interdit d'emballer fruits et légumes dans du plastique dans l'Union européenne, cette chaîne d'épicerie française propose 100% de produits vendus en vrac. Ici, les céréales, légumes secs et produits d'entretien sont disposés dans des grands bacs.
Voilà la moitié.
On a mesuré qu'on réduisait la masse d'emballage mise sur le marché de plus de 70%.
Didier Onretta, président des magasins Day by Day, une enseigne française créée il y a 11 ans.
On va encourager les gens à revenir avec leurs propres contenants au maximum, évidemment, dans la mesure où ces contenants sont réglementaires. Il ne faut pas prendre de risques sanitaires pour personne. Mais s'ils n'ont pas de contenants, nous, on a tout un tas de contenants réemployables mis gratuitement à disposition.
Cette chaîne compte une quarantaine de magasins, dont certains ont souffert avec la pandémie. Mais la clientèle sensible au gaspillage et à la pollution est de retour, Didier Onretta.
Seulement 26% des emballages ménagers plastiques sont recyclés, 40% vont être brûlés. À une époque où on parle d'émissions CO2, c'est dramatique. Et puis les 30 et quelques pourcents qui restent de cet écart-là, ils vont être enfouis.
Avec la réutilisation des emballages, le vrac fait partie des solutions recommandées par l'ONU pour réduire nos déchets plastiques.
Un reportage garanti sans plastique à Paris de Raphaël Morane pour RFI. Et c'est maintenant la fin de ce journal. Il est quasiment 1h10 en temps universel. Toutes nos informations sont à retrouver sur rfi.fr. Pour l'instant, c'est l'heure de Priorité Santé. Et moi, je vous retrouve dans une cinquantaine de minutes pour le prochain journal.